Ce sont sur ces mots que nous allons nous quitter, José.
Voilà, bon courage.
Allez. Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb. J'ai loupé ma pré-intro, alors je la refais maintenant. Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme ce soir, de la BD, un peu de BD, de la BD puis aussi un petit peu de BD. Attention générique, mais ça vous l'avez déjà entendu. Ce soir, pour m'accompagner pendant une heure, je vais avoir avec moi Jean Hainaut, le président du festival Angers BD qui se déroulera les 4 et 5 décembre prochains. Et puis on va parler pendant une heure du festival et de plein d'autres choses. Ça risque d'être long, on risque de beaucoup parler, peut-être des blancs, mais c'est pas grave, ça devrait vous plaire quand même. Et puis si ça vous plaît pas, ce sera la même chose de toute façon. Bonsoir Jean, comment vas-tu ?
Bonsoir Seb, ça va très bien, merci.
Alors, le festival, c'est le festival, c'est quelle édition du festival ?
Alors, on est à la 22e édition cette année, donc on est sur... On aurait dû être la 23e, sauf qu'on a eu l'annulation l'année dernière pour cause Covid, donc on fait cette année la 22e.
Donc, un petit hiatus d'une année.
Exactement.
Qui a permis de faire une passation de pouvoir alors entre moi-même et puis toi-même.
C'est ça. Ah, j'étais président à l'édition qui n'a pas eu lieu.
C'est
mais
ça.
Du coup, c'est ma vraie première en tant que président du festival.
Beaucoup de stress, comment ça s'annonce un petit peu tout ça ?
Un peu de stress pour le discours, t'as connu ça, je pense.
Oui. Mais... tu fais comme moi, t'improvises et puis...
Exactement. Non, globalement ça va, il y a une bonne équipe, ça fait quelques années que ça tourne, donc tu sais bien que en termes de bénévoles, il y a du monde, on a une équipe qui fonctionne, maintenant c'est une affaire toujours dans l'associatif de personnes et puis de bénévolat, donc on a du temps à passer et tout le monde n'a pas le même temps et tout le monde n'a pas les mêmes agendas, donc c'est juste ça qui est compliqué, comme toute association je pense, Et plus on avance vers le festival, plus ça devient compliqué, mais on est très heureux de le refaire et on s'éclate toujours autant à faire le festival.
Toujours une petite tension en fait à l'approche du festival parce que c'est un stress.
C'est ça.
Savoir comment
tout
ça
le monde est
perçu.
Un peu stressé, tout le monde gère les expos, on en reparlera, l'invitation des auteurs, l'avenue, le côté logistique, etc. Il y a beaucoup de la communication, il y a beaucoup de choses qui nous occupent des soirées entières et donc voilà, il faut concilier tout ça avec tout le reste de l'activité qu'on a à côté.
On peut peut-être commencer un petit peu avec les premières choses en fait qui sont certainement les plus importantes en termes de de technique et de sécurité, comment ça se passe ? Masque obligatoire, passe obligatoire ?
Tout à fait. Alors pour l'instant, on est sur les conditions sanitaires qui sont celles dictées par la préfecture, c'est-à-dire qu'on va être sur un pass sanitaire obligatoire à l'entrée du festival, donc il sera vérifié avant l'entrée dans le centre des congrès, et à l'entrée dans le centre des congrès après, il y a quelques mètres à faire avant la billetterie et l'entrée officielle du festival, où là on vérifiera que tout le monde aussi porte le masque, et il y aura des infections des mains également à l'entrée du festival.
Ok. Une logistique compliquée à mettre en œuvre sur un festival, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait du coup.
Ça n'a jamais été fait, on a anticipé, on achète quelques équipements en avance, le gel, etc. Et puis on anticipe, sachant qu'on a la chance d'avoir au centre des congrès une équipe de sécurité qui est présente sur le festival, qui est indépendante de l'assaut en elle-même, et donc qui nous permet d'avoir une sécurité pour tout ce qui est gestion des passes sanitaires. Donc ce ne sera pas à nous de le faire, et c'est un bon point.
Ok, effectivement, ça soulage un petit peu la logistique du festival qui va pouvoir se consacrer au festival en lui-même. Il y a combien d'auteurs qui sont attendus sur ce festival ?
Alors cette année, j'ai regardé les chiffres hier soir, on était à 45 auteurs invités, donc pour l'instant qu'on confirmait, maintenant comme tous les ans, Covid ou pas, on a tout le temps un ou deux qui peuvent ne pas être là pour causes diverses, mais voilà, on table sur, on va dire, une bonne quarantaine d'auteurs cette année.
D'accord. Pour un public attendu à combien de personnes à peu près?
Si on fait comme avant, on est à 2500 entrées à peu près.
Ok, vous prévoyez la même chose, pas de hausse, pas de baisse, hein, vous savez.
Alors,
pas trop.
Alors, on aimerait bien se dire qu'il n'y aura pas de baisse, mais on ne se fait pas d'illusions sur l'impact du Covid sur la fréquentation du festival. On est comme beaucoup d'autres festivals au niveau national, c'est-à-dire qu'ils ont tous globalement une baisse des effectifs de présence du public. Maintenant, on se dit que voilà, on a un public en juin qui commence à bien nous connaître, un public même au niveau du département ou de la région qui nous connaît, qui vient régulièrement depuis plusieurs années, et donc on espère quand même capter pas mal de monde, et faudrait pas qu'on descende trop bas non plus, parce qu'il y a une rentabilité à avoir pour un festival, donc voilà, faudrait qu'on assure d'avoir une 23e édition dans l'idéal.
Ok. Est-ce qu'on peut rentrer éventuellement un petit peu dans le détail des auteurs qui seront présents au festival? Alors déjà peut-être par l'affiche, alors une affiche un peu particulière du coup, puisque enfin, même sur l'édition j'imagine, puisqu'il y a une reprise en fait des auteurs qui étaient invités sur l'année qui ne s'est pas faite, comment ça s'est passé?
C'est ça, en fait on avait demandé, donc l'année dernière on avait déjà invité quasiment tous les auteurs, on a annulé le festival, enfin on a essayé de le reporter, on dit bien pas annulation, parce qu'en fait on a vraiment, notre 22e édition devait être l'année dernière, elle est cette année, on a vraiment juste
décalé
l'édition d'une année, on n'a pas annulé en fait dans l'impasse sur tout ce qu'on avait fait, donc c'est-à-dire que l'affiche était déjà construite, les auteurs, beaucoup étaient déjà invités, on a aussi des auteurs qui ont fait des étiquettes de vin, on reparlera sans doute après, mais voilà, on a pas mal de choses qui avaient été construites et faites, et on s'est dit on va pas faire tirer un trait là-dessus, donc on est reparti sur tout ça, et donc on a réinvité les mêmes, et tous ceux qui pouvaient s'engager pour une autre année, bah on dit oui, on vient, et notamment l'auteur de l'affiche, donc Virginie Augustin, qui nous a fait une superbe affiche sur Angers, donc c'est voilà, on est très content du visuel qu'on a cette année.
Alors une affiche qui a fait un petit peu débat au cœur de l'association, si je mets le doigt sur un truc qui pique un peu ou pas?
Oui, peut-être, mais comme beaucoup d'affiches, on a toujours des discussions, on est un groupe avec des avis très divergents, des choix en termes de BD et un amour de la BD différent, c'est-à-dire qu'on aime tous des BD différents, des styles différents, donc évidemment tous les ans, l'affiche, il y en a quelques-uns qui vont dire qu'ils aiment un peu moins, voilà, pour tel ou tel sujet. Maintenant, on part du principe que quand on a demandé à un auteur de la faire, on va pas lui faire refaire tout son travail, on fait confiance à l'auteur, si on l'a choisi c'est pour une bonne raison, et donc on valide de toute façon son affiche tant qu'elle est politiquement correcte.
Alors, et donc vas-y.
Et donc cette année voilà, on a Virginie Augustin qui nous a fait une affiche qui on va dire dans l'assaut peut-être n'est pas l'affiche coup de cœur pour certains, moi personnellement je l'adore, je la trouve vraiment très très belle, on est plusieurs quand même à l'apprécier grandement, et dans le public en juin en tout cas sur les réseaux sociaux elle trouve un très bon public et les gens sont très très contents du visuel.
On peut, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une affiche qui est très inspirée. Je pense que Virginie Augustin s'est beaucoup inspirée des Tenteurs de l'Apocalypse.
Exactement.
Effectivement, on a quelque chose qui fonctionne bien et qui est très dans l'esprit. Donc, pour ma part, elle me plaît beaucoup. Et effectivement, elle a une espèce de charme très particulier.
C'est ça, on retrouve vraiment la patte de Virginie Augustin, donc l'auteur de Joe la Pirate, pour ceux qui auraient suivi l'actualité récente de la BD. On retrouve vraiment son dessin, son trait personnel, et puis en même temps, tous les codes de la tapisserie Apocalypse. Donc c'est vraiment, je trouve, un bel hommage à Angers et à la culture angevine, avec comme toujours, la consigne pour toutes nos affiches de festival, c'est le château d'Angers qui doit apparaître sur cette affiche. Donc là, il est en plein milieu, on ne peut pas le louper. Et c'est vraiment typiquement notre château d'Angers.
Alors, il n'y a eu que quelques exceptions à cette règle.
Il y a peut-être une exception réelle, et les autres où il y a parfois, j'ai tendance à dire, le château n'est pas parfaitement visible ou n'est pas forcément celui d'Angers, mais il y a un château. Par contre, on essaye dans la mesure du possible d'avoir voilà, le château d'Angers qui est un peu, on va dire, la seule commande qu'on fait réellement à l'auteur.
Ok. Du coup, une affiche qui sera. Alors, je sais pas si. Enfin, je dis ok, mais. Comme si je conclusais. Mais non, en fait, ces affiches-là, il y a eu pour tradition d'avoir un tiré à part, une édition luxe. Ce sera toujours
Exactement,
le cas.
Exactement, ce sera toujours le cas sur le festival. Donc, on a sur le festival un stand pour l'association qui vend un peu, on va dire, ses goodies, donc notamment ses affiches de toutes les éditions précédentes, tout ce qui nous reste en stock. Et les tirés à part aussi. Donc, c'est vraiment voilà, une édition luxe de l'affiche avec signée et numérotée par l'auteur. Donc, c'est quand même. Qualitativement très intéressant, et cette affiche là je pense que voilà, en termes de rendu sur un beau papier avec une belle encre d'impression, ça doit vraiment rendre super sympa.
Et puis un beau cadre, une édition limitée, c'est ça?
Oui, c'est ça, on n'en tire que quelques exemplaires, donc pour la petite histoire, quand on fait nos tirs à part, on en offre quelques-unes à l'auteur pour voilà, son travail personnel, on en garde quelques-uns pour l'association, les bénévoles, ça fait aussi partie des choses qu'on donne aux bénévoles, avec dédicace de l'auteur, enfin pour les membres de l'association vraiment adhérents, et on en vend donc le reste sur le festival pour les festivaliers.
Ok, donc si vous nous écoutez, chers auditeurs, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Hein, donc,
non, il y a un nombre limité.
Vaut mieux y aller tôt, en fait, pour pouvoir avoir...
C'est ça, dès le samedi.
Dès le samedi. On va revenir un petit peu plus tard sur l'organisation en tant que telle du festival, les conditions d'accès. On a vu un petit peu, mais quels sont les tarifs et est-ce qu'il faut vraiment venir très tôt ou pas. En attendant, je vous propose d'écouter un tout petit morceau musical. Alors, je ne sais pas si Jean, vous allez tu me vas valider le morceau musical. Et moi, c'est quelque chose que j'écoutais il y a très longtemps et elle a ressorti un nouveau morceau très récemment. J'ai l'impression de réécouter un album qui existait déjà. C'est Avril Lavigne avec Bite Me. Donc, à tout à l'heure sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Je suis toujours avec Jean Hainaut, le président du festival Angers BD qui va avoir lieu les 4 et 5 décembre prochains. Ouais, un gros E. Comment on s'y prend pour venir au festival? Alors déjà, où c'est?
Alors, c'est au centre de congrès, donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on y était. On a été un peu décalé pendant les travaux, mais on est très content d'y être retourné dans un bel équipement tout neuf qui est très très fonctionnel, donc nous ça nous va très bien. Alors maintenant, le grand avantage, c'est qu'il y a un tram qui s'arrête juste devant. Donc ça, c'est la bonne chose, la bonne nouvelle. Voilà, il manque plus qu'on mette une énorme banderole en GBD pour que les gens la loupent pas. Mais voilà, il y a un arrêt de tram centre de congrès qui permet d'y accéder. Et sinon, on est à deux pas du centre-ville. Donc, faut pas hésiter à descendre le boulevard Foch vers le Jardin des Plantes. Et puis, on est au bout, juste à côté du Jardin des Plantes, avec une belle vue sur le Jardin des Plantes, justement. Donc, ça fait partie aussi. Ça peut être l'occasion, peut-être pour certains qui ont été confinés pendant plusieurs temps et pas beaucoup sortis, de découvrir un nouvel équipement, un équipement tout neuf de la ville d'Angers.
si on vient de loin, on peut se loger au Mercure en plus.
C'est exactement, il y a un hôtel juste au-dessus, donc c'est très avantageux aussi pour nos auteurs qu'on accueille, qui sont logés juste sur place. Donc pour peu que vous dormiez au Mercure, vous avez peut-être la chance de croiser un auteur de BD dans la porte d'en face de la vôtre, donc ça peut être agréable
attention,
aussi.
Attention, c'est pas une raison pour aller les stalker. Hein.
Exactement, il faut quand même respecter la vie privée de nos auteurs. Mais on peut tout à fait venir loger au Mercure ou dans pas mal d'hôtels autour de la gare. On est accessible directement facilement par la gare d'Angers avec le tram qui vous prend à la gare et qui vous dépose devant le centre des congrès.
Fabuleux.
Exactement.
Vaut mieux s'y prendre tôt pour rencontrer certains auteurs ou pas ?
Oui, alors on a tous les ans, on va dire, des têtes d'affiches, des auteurs vraiment qui brassent du monde et qui font venir du public d'assez loin. Et puis on a aussi tous les ans un public de fans de BD qui est là dès les aurores. Après, on a tendance à dire que pour profiter pleinement du festival, il faut compter une demi-journée quand même, au moins sur place. On assure la restauration et la boisson, hein, faut pas hésiter à venir. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Et l'idée, c'est qu'en effet, on est ouvert de 10h à 18h30 le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Et donc, si vous venez plutôt, on va dire, fin de matinée, c'est le bon plan pour voir du monde et passer un temps tranquille sur le festival sans avoir trop non plus d'afflux de personnes.
Ok. Est-ce qu'on peut prévoir son billet avant ou est-ce qu'on peut que l'acheter sur place ?
On ne peut que l'acheter sur place.
Ok.
On n'a pas encore de billetterie en ligne, mais ça va venir. Alors, là, tu me poses une colle sur le tarif du billet. J'avoue que je n'ai pas revu ma note. Et en fait, on a eu des changements pendant quelques années, donc je ne sais plus exactement sur quoi on se positionne.
Non, on pourrait y revenir tout à l'heure, si tu veux.
Voilà, on y reviendra. De mémoire, on doit être à 7€ le billet d'entrée du week-end.
Ok. Qu'est-ce qu'il y a à voir à l'intérieur, à part des gens qui vont dessiner ?
Des gens qui dessinent.
Il n'y a que ça à voir.
Non, tout à fait. Il y a pas mal de choses qu'on propose sur le festival. Alors, la première chose, c'est à l'entrée du festival, vraiment, on tombe nez à nez, on va dire, avec des libraires d'occasion. C'est-à-dire qu'on peut trouver plein de bandes dessinées à pas cher, j'ai envie de dire. Tous les types de bandes dessinées. On trouve des fois des vieux trucs aussi, d'autres générations. Donc, c'est l'idée aussi, peut-être un peu, j'aime bien ce coin-là, parce qu'on peut refaire sa bibliothèque, trouver les éléments manquants d'une série ou les cadeaux qu'on veut faire à des gens qui sont fans, peut-être de trucs un peu plus vieux. Et on trouve vraiment beaucoup de choses. On a, je vais pas dire une bêtise, mais on va avoir 5 à 6 libraires d'occasion qui sont là, qui viennent un peu de partout en France ou de Belgique. Donc ils proposent un gros stock de bandes dessinées et c'est des connaisseurs, donc ils sauront vous conseiller aussi. Au même espace, on a donc une barre restauration, le stand d'assaut pour découvrir un petit peu les affiches et l'histoire du festival aussi autour de ces différentes éditions. Et on a également sur le festival des fanzines, des auto-édités. Donc en fait, on va dire un petit peu tout le petit monde des à côté de l'édition classique, c'est-à-dire des indépendants comme Lilian qui était là tout à l'heure, également des maisons d'édition plus petites, indépendantes, pas les gros, on va dire les gros engins style Glénat, Lombard, etc. d'Argo. Et on a également des expositions sur le festival. Donc on a cette année au festival et en dehors du festival, on a donc, je calcule rapidement, on a 5 expositions sur le festival au centre de congrès et 4 expositions décentralisées dans différents équipements autour d'Angers, notamment la médiathèque Anita Conti de Beaucouzet, le centre diocésain avec une exposition sur P12.
On va peut-être rentrer dans le détail de tous ces expos en fait.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut éventuellement tu as l'air de partir sur celles qui sont décentralisées.
Tout à fait, je vais un peu trop vite sur sur le programme.
C'est l'excitation du festival.
Exactement.
Qui est déjà là.
Alors, pour reprendre un peu rapidement, donc les expositions décentralisées, ça fait, j'ai envie de dire, depuis le début qu'on participe avec... on n'a pas envie de mettre les expos qu'au centre de congrès sur 2 jours. Donc l'idée, c'est aussi de permettre d'avoir des expos qui durent plus longtemps. Celles-ci sont sur plusieurs semaines. En général, c'est tout le mois de décembre. On a même parfois maintenant qui commence mi-novembre jusqu'à mi-janvier. Globalement, il faut compter, on va dire, tout le mois de décembre. Donc on a cette année une exposition de Alary sur les traces de Tyrone Méhan du 20 novembre au 18 décembre à la médiathèque Anita Conti de Beaucouzet. On a également un local Éric Juzézac, qui est bien connu, je pense, du public en juin, avec une BD sur P12, donc, qui sera exposée du 15 novembre au 15 décembre au centre diocésain, rue Barra à Angers.
Ouais, du coup, une des thématiques qui s'adapte au lieu, en fait.
Exactement, là on s'adaptait au lieu. C'est la première fois qu'on participe avec le centre diocésain, et en fait, on avait une bande dessinée avec un sujet qui leur convenait, qui semblait intéressant et qui permettait aussi de valoriser d'autres partenariats. Donc, c'est intéressant pour nous d'investir de nouveaux lieux pour faire vivre la BD aussi dans d'autres endroits. Pas forcément ceux où on a l'habitude de les trouver. On a également une exposition sur Christian Paty du 1er décembre à fin janvier 2022. Donc là, il dure 2 mois d'exposition à la médiathèque de Muret-Rignier. On a Boris Beuzelin qui est du 4 au 23 décembre à la galerie Rive d'Art au Pont-de-Cé. Donc là, c'est pareil, c'est pas une médiathèque, c'est pas forcément un lieu. C'est un lieu culturel, mais c'est pas un lieu de bande dessinée ou de livres. Mais c'est un lieu qui se prête très bien aux expositions, avec qui on a déjà de bonnes relations, et donc on a plaisir aussi à monter des expositions chez eux.
Je me permets juste une petite question, éventuellement. Là, Christian Paty et Boris Beuzelin, c'est des rétrospectives sur tout leur travail ou c'est plus focalisé sur un ouvrage en particulier?
Oui, là, c'est plutôt l'ensemble du travail ou les dernières BD qu'ils ont sorties. Ça dépend du volume de ce qu'on a en originaux, bien sûr. Oui. Mais c'est, voilà, Christian Paty, c'est sur l'ensemble de sa carrière, en fait.
Ok.
Et enfin, en termes de, on va dire, alors c'est pas vraiment une exposition décentralisée, mais c'est un en plus, un à côté du festival, on a une projection du film de Pascal Rabaté, qui est donc un auteur de BD, qui a également fait un film qui s'appelle Les Cent Dents, qui est tiré un peu de son ouvrage. Donc l'auteur sera présent ce soir-là, le 3 décembre, donc le vendredi soir, au cinéma Les 400 Coups, pour une avant-première de son film localement. C'est encore pas diffusé, donc c'est l'occasion de venir voir
en avant-première
quelque chose, voilà, de nouveau, un petit peu sur voir la BD de manière différente, c'est-à-dire à travers vraiment un film.
Pascal Rabaté, du coup, qui est en multi-casquette, en fait, puisqu'il est à la fois auteur de BD, réalisateur.
C'est ça. Donc là, c'est découvrir. C'est ça. Faire une musique originale pour son film, et puis ce sera fait. Et voilà, c'est une autre facette aussi de la bande dessinée, et découvrir un auteur sous un autre jour, en fait.
Ok. Et du coup, sur place, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir au festival au festival LangeBD, au Centre des Congrès?
Alors, au Centre des Congrès, on a donc 5 expositions. Donc, on a tous les ans l'exposition de l'auteur de l'affiche. Donc, cette année, c'est Virginie Augustin, auteur de Joe la Pirate. Donc là, c'est une exposition sur Joe la Pirate, donc sa dernière BD en date, qui parle de Barbara Casters, qui était une personne avec une personnalité de feu dans les années 1920 à 1990. Voilà, donc c'est l'occasion de découvrir un pan aussi de l'histoire culturelle en général. On a une rétrospective entière sur l'œuvre de Marc Hardy au Centre de Congrès. Donc là, c'est une grosse exposition aussi, qui touche vraiment à tout l'ensemble de son palmarès BD, on va dire, de son histoire de la BD. On a également 2 expositions des prix Première Bulle. Donc on en reparlera, hein, des prix du festival, mais on décerne toujours des prix. Et en fait, on a donc Elliot Rimbaud, qui a été lauréat du prix en 2019 pour Les Tambours de Srebrenica, donc qui parle de la guerre en Bosnie. Donc on va dire une BD journalistique assez vraiment très intéressante pour découvrir aussi un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas forcément. Donc Première Bulle 2019, et l'année dernière, il n'y a pas eu de festival, mais il y a quand même une sélection de prix Première Bulle. On a donc remis un prix à un auteur qui n'a pas pu être là, qui aurait dû avoir son exposition. Et donc on propose, comme toujours, à Joris Mertens, donc prix Première Bulle 2020, d'avoir une exposition autour de son œuvre Béatrice, qui a donc été sortie l'année dernière. Et enfin, dernière exposition, on a une exposition qui nous tient beaucoup à cœur aussi parce qu'elle montre un peu la diversité de la bande dessinée et de ce qu'on peut faire avec. C'est le travail des élèves du collège Honoré de Balzac autour de l'œuvre de Fabrice R. Et donc c'est vraiment une exposition mise en place, mise en scène, construite par les élèves du collège.
Fabrice R, qui est instituteur de mémoire. Hein.
Exactement, voilà, qui connaît bien le milieu scolaire.
La boucle est bouclée.
C'est ça.
On disait que la bande dessinée était tentaculaire et qu'il y avait plein de liens. Effectivement, on voit le cinéma, on voit l'instituteur. Est-ce qu'éventuellement, on peut parler aussi d'une autre spécificité du festival?
Le vin.
Le
c'est
vin.
Ça.
C'est ça.
Hey,
t'as vu, les transitions c'est sont ça. Fabuleuses.
Eh oui, on brasse notre vin. Non, c'est pas ça du tout. Brasser le vin, en plus, ce serait compliqué. Non, alors tout à fait. Donc, merci de me lancer là-dessus. Donc, à la base, AngeBD s'appelait Vini BD. Ça, il faut retourner un peu à l'origine.
Hein. Il y a longtemps, 23 ans.
Il y a longtemps,
ans,
il y a 23, 24, 24,
24
ans maintenant. Donc, c'est, on a commencé, c'est un terroir de vin, hein, l'Anjou et tout ce qui est tout le département. Donc, l'idée, c'est de proposer sur le festival des bouteilles de vin avec des étiquettes originales dessinées par des auteurs de bande dessinée. Et donc cette année, on a le plaisir de réitérer encore une fois ça, le plaisir ne se dément pas sur les étiquettes de vin et de bouteilles qui se vendent très très bien. Alors on peut acheter les étiquettes seules ou les étiquettes avec la bouteille remplie dans l'idéal, c'est quand même ce qui est le plus sympa. Voilà, donc c'est découvrir du vin de la région. On a du vin, beaucoup de vin d'Anjou, et on va dire globalement on va de la vallée de la Loire, mais on essaye de vraiment spécifier sur l'Anjou pour faire découvrir aussi des auteurs, enfin des vignerons, pardon, en biodynamie, en bio et puis en conventionnel. Et l'idée, c'est d'avoir un peu tout l'Anjou à présenter au festival. Avec donc là, cette année, on a 28 étiquettes originales faites par des auteurs de bande dessinée de partout en France, et de France et de Navarre.
Donc 28 bouteilles de vin différentes.
C'est ça, voilà. Donc on a des partenaires, je voudrais remercier vivement, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça, et c'est un gros, gros travail à ce niveau-là. Donc c'est des viticulteurs d'Avrier, de Beaucouset, de Saint-James, de pas mal d'endroits, de plus loin dans la vallée de la Loire, qui nous proposent de mettre des cuvées avec une étiquette originale. Donc voilà, pour eux c'est un lien privilégié aussi avec la BD, et puis c'est une bonne reconnaissance aussi du savoir-faire de la BD locale.
Alors comment ça se passe? Ils ont complètement quartier libre pour faire une étiquette comme ils le souhaitent?
C'est ça. Alors ça dépend des années, on travaille un petit peu différemment, on va peut-être essayer de... Il y a peut-être des choses qui vont changer, on verra en fonction de l'organisation. C'est simplement pour s'organiser plus facilement. Pour l'instant, comment on travaille, on demande à des auteurs de nous, ceux qui, voilà, on propose à des auteurs dont on aime bien le style ou qu'on connaît un petit peu ou qu'on a avec lesquels on a des relations, de nous faire une étiquette de vin. Ça, souvent, c'est quartier libre. Ils font avec leur univers. C'est vraiment histoire d'avoir une belle étiquette de bande dessinée sur une bouteille de vin. Et on a quelquefois des auteurs qui nous spécifient. Moi, j'aime que le rouge, alors je veux du rouge. Donc, vous mettez ma étiquette sur du rouge. Dans ce cas-là, il nous fait quelque chose qui colle, évidemment, avec un vin pour vendre du vin rouge dedans. Donc, il y a un grand travail de nos bénévoles pour associer parfois les étiquettes au vin, au cuvée, pour que ça colle, que ça corresponde aussi. Les viticulteurs ont leur mot à dire, les vignerons ont leur mot à dire sur l'étiquette qui sera attribuée, c'est eux qui choisissent, donc ils ont un droit de regard là-dessus. Et l'idée, c'est que tout le monde soit content, auteur comme viticulteur, pour permettre d'avoir quelque chose de qualitatif pour nos festivaliers.
Que du vin ?
De la bière également aussi, oui, tu fais bien de le mentionner. Il y a la Piotre, sans qui j'ai envie de dire presque le festival ne se ferait pas, parce que c'est eux qui nous approvisionnent en boissons aussi, donc on a bien besoin d'eux. Donc en effet, si on s'appuie sur des viticulteurs locaux, c'est aussi normal de s'appuyer sur des brasseurs locaux, et notamment la Piotre. Donc toi, tu les connais bien en plus, t'as été pendant longtemps, on va dire... notre relation privilégiée avec eux. Et donc, en effet, on propose aussi de la bière sur le festival, au bar déjà. On permet à nos festivaliers de boire de la bière locale. Et puis également aussi des étiquettes. On a quatre étiquettes, quatre cuvées de bière différentes étiquetées avec une étiquette originale.
Et aussi... un partenariat avec une liqueur, même
c'est
si
ça.
Cette année, si j'ai bien compris.
Alors cette année, on a eu des soucis avec l'étiquette, mais on travaille avec Giffard, voilà, depuis plusieurs années, pour proposer de la menthe pastille sur le festival avec une étiquette originale. Donc cette année, malheureusement, il n'y aura pas d'étiquette originale, il y aura quand même la menthe pastille à acheter, mais il n'y aura pas d'étiquette, et on espère l'année prochaine pouvoir reproposer au public des étiquettes qui marchent d'habitude du tonnerre.
Juste avant de clôturer cet espace... on va dire alcoolisé. Toutes ces étiquettes, elles sont mises en image comment? Parce que vous avez le visuel brut, mais il y a bien quelqu'un qui travaille à faire quelque chose dessus.
Tout à fait. Alors on travaille avec un super graphiste sans qui on ferait vraiment rien pour le coup. Donc Loïc Jombard, qui est un local aussi, qui est aussi dans la BD, qui connaît tout cet univers-là, et qui a son propre studio de graphisme, et qui fait tout pour nous bénévolement, largement. Et donc il récupère tous ces fichiers, il nous les met à la bonne dimension quand il y a besoin. En général, on donne quand même des consignes de dimension, mais surtout il prépare tout pour l'impression, pour avoir toutes les consignes, tout ce qu'il faut comme nom de vin dessus, les intitulés spécifiques des cuvées, etc. Donc c'est un travail pharaonique qui est fait en amont du festival, et c'est également lui qui s'occupe aussi de toute notre communication en termes de flyers, en termes d'affiches, en termes, voilà, parce qu'on reçoit à chaque fois le fichier brut de la part de l'auteur, et il faut bien mettre les informations spécifiques dessus.
Un travail graphique qui est accompli de main de maître.
Exactement.
Empreinte Studio, si je me trompe.
Empreinte Studio, c'est ça, Loïc Jombard. Okay.
Si vous trouvez qu'il a fait du bon travail sur l'affiche, n'hésitez pas à lui donner du travail. Je pense que ça lui fera plaisir, il doit en manquer. Je déconne, bien sûr.
En ce moment, on a besoin de lui.
Je rappelle quand même que on parle de vin, on parle d'alcool, mais que ça c'est beau et bon du coup au festival, mais que c'est surtout à consommer avec modération. Alors du coup, je vous profite de cette petite pause musicale pour vous passer The Opioid Diaries de The Offspring. C'est une chanson qui parle de l'addiction. The Opioid Diaries de The Offspring, une chanson qui parle d'addiction, avec plein de thématiques en fait développées dans le clip. N'hésitez pas à aller le voir quand l'émission sera finie, bien sûr. Hein, sinon, je serai pas content. Je suis toujours en direct avec Jean. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une émission directe avec un invité, ce qui est super cool, je trouve. On parle du festival en GBD qui se déroule au Centre des Congrès les 4 et 5 décembre prochains. Ça va venir très très vite. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi à ce festival? Est-ce qu'il n'y a pas... On en parlait dans Topette tout à l'heure avec Pierre Benoît. Est-ce qu'il n'y a pas un prix qui est remis à ce moment-là?
Tout à fait. Donc il y a même deux prix qui sont remis à ce moment-là. Donc le prix Première Bulle, qui est le prix du festival, et le prix des bibliothécaires, dont tu vas sans doute nous lancer quelque chose pour en parler mieux que moi.
Alors, elle ne pouvait pas être présent lors de l'émission, mais j'ai une interview qui a été réalisée par des personnes du Bibliopôle que je vous laisse découvrir, et on se retrouve tout de suite après. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre fonction ainsi que la structure du Bibliopôle ?
Bonjour, je suis Alexandra Simon-Lavaux, je suis bibliothécaire au Bibliopôle, le réseau de lecture publique du département. Et je suis en charge du secteur bande dessinée, adultes et jeunesse.
Bonjour, je suis Édouard Lavaux, je suis responsable de l'offre et du circuit documentaire au Bibliopôle. Mon travail consiste à organiser la distribution de livres, disques, films en direction des 232 bibliothèques partenaires du département de Maine-et-Loire. Et dans ces collections, donc... nous disposons d'un fonds de bande dessinée de plus de 40 000 titres, un fonds que nous valorisons au travers d'actions diverses, de formations, de médiations, avec entre autres donc, le prix des bibliothécaires de Maine-et-Loire.
Qu'est-ce que c'est que le prix des bibliothécaires et pourquoi a-t-il été créé ?
Depuis 2017, le Bibliopôle s'associe au festival en GBD en proposant le prix des bibliothécaires du département de Maine-et-Loire, qui récompense deux albums parus dans l'année, une BD jeunesse et une BD adulte. Les prix sont remis aux vainqueurs lors du festival en GBD. L'objectif de ce prix est la mise en valeur de ces titres et de leurs auteurs auprès des lecteurs dans les bibliothèques du département.
Comment se passe la sélection des albums en lice ?
Alors, le jury est composé de bibliothécaires du département issus du comité de lecture BD mis en place par le Bibliopôle. Donc toute l'année, ce jury va lire entre 700 et 800 nouveautés BD publiées donc, dans l'année. Et est effectué un travail de sélection à partir de ces centaines d'ouvrages lus. Une sélection donc de 6 albums, 3 pour un public jeunesse et 3 pour un public adulte. Et parmi ces 6, donc 2 seront récompensés lors du festival.
Est-ce qu'on peut savoir sur quels critères sont jugés les albums ?
Nous avons 5 critères basés sur la qualité du scénario, du dessin, de l'attachement au personnage, de l'originalité et de la construction de la bande dessinée. Chaque critère est noté. Et l'ensemble donne une moyenne pour chaque titre. Seulement 6 resteront, pour ensuite être départagés lors d'un conciliabule.
Comment ça se passe, les délibérations ? Il y a beaucoup de débats ?
Alors, lors d'une réunion, nous échangeons sur l'intérêt de mettre tel ou tel titre en avant. Outre la réalisation, l'aspect graphique, la construction, c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance au sujet, aux thématiques. Ces 6 titres sont importants car ce sont des titres que nous voulons porter auprès du public.
Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation des sélectionnés ?
Donc en adulte, pour la sélection adulte, nous avons Blanc autour, une bande dessinée historique de Wilfried Lupano et Stéphane Fert chez Dargo. Puis nous avons Radium Girl, qui est également une BD historique, chez Glénat, de Si. Et enfin Carbone et Silicium, une bande dessinée de science-fiction de Mathieu Bablet chez Ankama. En ce qui concerne la sélection jeunesse, nous avons Lightfall, une bande dessinée fantasy de Tim Probert, chez Gallimard. Yojimbot, qui est une bande dessinée SF dans un univers japonisant, de Sylvain Repos et Noiry, chez Dargo. Et enfin, le Ciné-Rêve, une bande dessinée fantastique et humoristique, d'Anne Didier, Catherine Duval et Roland Garrigue, chez Casterman.
Quand aura lieu l'annonce du lauréat ?
Alors, la cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 4 décembre 2021 lors du festival en GBD dans l'auditorium du Centre des Congrès Jean Monnier à Angers. C'est à 12h45. Alors, surtout, venez nombreux.
un prix des bibliothécaires du Maine-et-Loire qui va être décerné du coup lors du festival Angers BD, mais ce sera pas le seul prix.
Exactement.
Avec ton micro, c'est mieux.
Ah, avec le micro, ça marche mieux. Donc, à Angers BD, on décerne aussi tous les ans un prix Première Bulle, donc, qui a pour but de récompenser un auteur qui a sorti sa première BD dans l'année. Donc, cette année, concourt pour le prix Première Bulle plusieurs personnes. Emmanuel Bazin pour Mauvaise Réputation, Ewen Blin pour Naoto, le gardien de Fukushima, Amaury Bungden, j'espère que j'écorche pas son nom, pour Iron Mud, Nicolas Degani pour Ceux qui brûlent, Genaël Garbowski pour Nautilus, Camille Mehu pour Fille Unique, Sylvain Repos et Ojimbo, et Aveline Stockard pour Elle. Et je ne révélerai pas le lauréat du prix qui est en cours de décision sera révélé le jour du festival, peu après ou peu avant le prix du bibliothécaire, puisqu'on remet les deux prix au même moment, un peu avant, enfin pendant la matinée, au moment de l'inauguration du festival officiel.
Ah, quelle tension en fait. Moi je m'attendais à avoir un scoop, quelque chose, mais non, rien.
Et non, rien ne sortira.
Tu connais les lauréats des deux ?
Oui, tout à fait.
Ok. Je poserai des questions au sortir de l'émission. Est-ce qu'on peut éventuellement détailler un petit peu les auteurs invités ? Il y a des locaux, il y a des gens qui viennent de loin, des très connus, des moins connus ?
Tout à fait. Alors, on va dire en tête d'affiche un peu, on a HD, donc, qui a repris Lucky Luke. Donc là, c'est l'occasion de voir quelqu'un quand même qui a repris une BD, on va dire, qui a un gros public et qui nous fait le plaisir de venir cette année. Donc on a Virginie Augustin quand même pour Joe la Pirate. Elle a quand même aussi une historique BD importante et intéressante. En outre, grand nom de la BD, je vais en oublier, hein, mais on a Marc Hardy pour Pierre Tombal. On a, je regarde ma fiche parce que je ne les connais pas tous
je
par cœur.
Je regarde en même temps Grenson peut-être, qui est pas mal.
On a Olivier Grenson, tout à fait. On a Istin, donc Jean-Luc et Laurence, donc scénariste et coloriste. On a également Julien Maffre, on a Philippe Larbier, les petits mythos, un truc qui marche bien aussi sur les réseaux sociaux.
Okay.
Voilà, on a un peu tout public aussi, enfin pour tout public, et on a également donc plutôt des locaux. On a Pauline Kesters, on a Boris Beuzelin, on a Tony Muriot, et puis on va dire une foultitude de personnes. Voilà, TM, on a également
des anciens locaux,
des anciens, c'est ça, tout à fait. Et puis on a bien sûr les lauréats des prix Première Bulle des années précédentes. Donc normalement on invite toujours celui de l'année précédente, sauf que l'on invite sur 2 ans puisqu'on n'a pas eu de festival. Donc je redis, c'est Joris Mertens et Elliot Rimbaud.
Il y a donc des albums que tu as lus ou pas, ceux-là ?
Oui, tout à fait. Alors, Joris Mertens, j'avoue, je l'ai lu il y a un bout de temps. Par contre, Elliot Rimbaud, vu que je prépare son exposition, je me suis relu toute la BD. Donc voilà, c'est... Moi, ça me tient à cœur personnellement parce que c'est de la BD historique qu'on n'a pas l'habitude de lire peut-être. C'est vraiment, j'ai envie de dire, du journalisme en BD. Donc c'est très intéressant aussi de voir l'enquête journalistique autour de cette part des guerres en Europe qu'on ne connaît pas assez. Donc je précise que l'exposition ne sera pas accessible aux trop jeunes enfants parce que voilà, c'est une BD difficile. Donc il faut avoir, l'âge pour la regarder.
Ok, une expo qui ne doit pas être facile à monter du coup.
Exactement, on va être tout en sobriété parce qu'on n'a pas envie d'en faire des caisses. L'idée c'est d'avoir des planches bien mises en valeur. Pour ceux qui viendront, vous verrez que le travail d'Eliott est remarquable en termes d'utilisation, c'est que du noir et blanc. C'est une qualité graphique que moi j'aime beaucoup avec énormément de puissance qui ressort de son dessin. Donc c'est encore plus intéressant sur une exposition vraiment tout en sobriété et qui met en valeur ce dessin.
Ça fait envie en tout cas. Je regardais la liste, effectivement, il y a plein de choses. Il y a des gens, des locaux. Il y aura des interviews, des interviews, des conférences, des choses comme ça ou pas du tout ?
Alors, j'ai pas envie de dire une bêtise, donc je vais dire non. Il me semble qu'on n'a pas prévu cette année de conférences parce que voilà, en termes aussi de préparation du festival, c'est un festival qui prépare quand même en période de pandémie, donc c'est pas évident d'avoir toutes les réponses en temps et en heure de tout le monde. Par contre, sur le festival, on aura un petit dessiné c'est gagné, animé par quelques auteurs qui vous feront plaisir de dessiner. Il faudra dessiner, voilà, le classique, dessiner ce que vous devinez ce qu'ils devinent. Voilà, exactement, mais avec des petits auteurs aussi qui nous feront des animations comme ça.
Eh ben, ça laisse perplexe, enfin pas perplexe, ça laisse rêveur. Je sais plus ce que je dis. Donc ouais, effectivement, tous les univers des pour les adultes, pour les jeunes, pour les vieux, pas forcément de manga, pas forcément de comics, pas forcément facile à avoir.
Non, on a eu des années des auteurs de comics, alors je vais pas dire de bêtises, tu me corrigeras, hein, mais je crois qu'on a pas eu d'auteurs manga au festival.
Wow, manga
en
français,
attendant, c'est des choses qui, voilà, qui nous tentent beaucoup maintenant. J'avoue, pour essayer d'en contacter plusieurs, que c'est pas le plus évident de les contacter, parce que pour beaucoup, déjà, ils passent pas par des maisons d'édition forcément classiques, pas des maisons d'édition qu'on connaît beaucoup dans le milieu de la BD aussi. Ça reste, même si quelques maisons d'édition s'y mettent, hein, mais voilà, c'est pas forcément le plus facile, sachant que nous, on travaille beaucoup par réseau aussi, un auteur qui connaît un auteur, qui nous met en contact, on prend des contacts sur Internet. C'est vraiment, quand les gens connaissent pas le festival, ils s'imaginent qu'on a un carnet d'adresse avec des numéros de téléphone et on appelle et on demande s'ils peuvent venir. Et c'est vraiment, bah, on est sur Facebook, sur Instagram, on les contacte, on les invite, on les appelle et tout le monde ne répond pas, comme tout le monde sur les réseaux. Donc voilà, je fais un appel. Si des auteurs de manga, de comics nous écoutent, si vous connaissez des gens ou si vous avez envie de nous conseiller des auteurs, n'hésitez pas non plus. On est preneur de contact pour inviter à vraiment tous ceux qui font la bande dessinée.
Eh bien, écoutez, hein, vous pourrez retrouver les numéros, comme le disait Jean, sur le site. Le site, c'est angbd.fr.
Angbd.fr, exactement.
Oh, ok. Bon, alors, un teasing un tout petit peu nul, on va dire, une transition un petit peu nulle, puisqu'on va parler, on va écouter Daoko. Je ne peux pas prononcer le nom, c'est en syllabaire japonais, avec Teddy Lloyd, mais c'est une chanson que j'ai déjà diffusée, que j'avais trouvée vraiment sympa. On se retrouve tout de suite après. Yeah. Daoko avec Teddy Loïd sur le 101.5 de Radio G. On est toujours dans cette émission spéciale de... alors, c'est presque deux émissions en une, en fait. Ce topette qui a commencé à nous parler bande dessinée et puis qui a enchaîné sur le casse de Seb qui parle de bande dessinée. On est toujours consacré au festival Angers BD qui c'est la 22e QV qui va avoir lieu les 4 et 5 décembre prochains au Centre des Congrès. Je suis toujours avec Jean Hainaut, le président. On profitait en plus de cette... on passait un petit peu en mode libre, à moins que tu aies des choses à ajouter sur le festival en lui-même.
Plaisir d'échanger, donc allons-y.
On parlait un petit peu du média bande dessinée et des choses qu'on pouvait faire autour. Et tu me parlais d'une expérience que tu as pu avoir il n'y a pas très longtemps en termes de French Tech. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
c'est
plus
ça. Donc l'idée, c'est, on ne va pas dire trop de trucs, mais on est toujours à la recherche de nouveaux partenariats, de nouvelles idées pour faire des choses un peu innovantes. Et on a eu l'occasion de présenter avec un collègue de l'association le festival à Angers French Tech. On a été très bien reçus. Merci beaucoup à eux de nous avoir accueillis. Et donc l'idée, c'est de voir un peu les synergies qui peuvent exister aussi entre une association et des gens qui travaillent dans le numérique, tout ce qui est, on va dire, un petit peu informatique, réseau, genre de choses. Et on a eu des synergies, des idées qui naissent, notamment sur d'autres manières peut-être d'imaginer s'immerger dans la BD avec de la réalité virtuelle, avec de la réalité augmentée, avec pas mal de choses. Donc j'en révélerai pas plus parce que voilà, je veux pas qu'on aille trop vite sur nos idées. Mais il y a beaucoup de choses qui existent et tu l'avais toi un peu expérimenté avec une exposition que tu avais montée quand tu étais vraiment à 100% dans l'assaut avec Harmonie.
Harmonie aux éditions Dupuis de Mathieu Rennes. Et l'intérêt, alors c'est qu'il y avait déjà de la réalité augmentée qui avait été expérimentée sur les ouvrages d'origine, alors qui a été restée. Alors même si c'était juste une expérimentation à la base, mais c'est surtout qu'en fait Mathieu Rennes avait travaillé avec un auteur, un illustrateur musical, je dirais presque, un compositeur, qui avait fait une bande son pour son album. Faudrait que je retrouve le nom de la personne. Et on avait essayé d'inciter les gens à s'immerger dans cette musique en mettant des casques à disposition pour c'est pouvoir ça. En fait découvrir cette musique. Il faudrait que je retrouve ça. Mais c'est vrai que le média bande dessinée a tendance à muter un petit peu. On voit des choses comme les webtoons coréens en fait, qui se lisent en vertical comme ça.
Tout à fait. On a beaucoup discuté de ça aussi à la French Tech et de manière générale dans la sauce, des choses dont on parle aussi parce qu'on on vit la BD aussi, on la lit et on l'aime, donc on suit ses évolutions. On a tous des préférences pour certains types de bandes dessinées, certains styles graphiques, certains positionnements des auteurs ou des scénaristes. Mais voilà, il faut être au fait de ces évolutions-là. Et en effet, on a de la bande dessinée qui change beaucoup. On a notamment aussi, une grande innovation. C'est un petit peu, et moi je soutiens ça à 200%, c'est, on va dire, tous ceux qui essayent de passer hors du réseau peut-être des grosses boutiques libraires, des gros éditeurs, c'est-à-dire les gens qui s'autofinancent. On a de plus en plus d'auteurs sur Internet, sur des campagnes participatives qui vont financer leurs exemplaires pour être dans de l'auto-édition, vraiment. On a aussi de plus en plus de petites maisons d'édition qui se construisent. Et chez les gros éditeurs, il y a du bon aussi, faut pas le cacher. Et il y a notamment leur capacité à générer de nouveaux projets, de nouvelles actualités. Et donc notamment aussi des éditeurs qui lancent tout ce qui est roman graphique. On a beaucoup, beaucoup maintenant de romans graphiques aussi qui sortent de la BD beaucoup plus épaisse et sur un style différent aussi de ce qui a pu se faire pendant longtemps sur la BD franco-belge. Donc on a vraiment beaucoup maintenant chez les libraires de romans graphiques. On sort aussi beaucoup de comics qui commencent à sortir. Donc l'idée, c'est dans le festival d'essayer de suivre ce mouvement et puis de proposer toujours de nouvelles choses. Donc on est aussi à l'affût de ça et preneur de bonnes idées sur ces secteurs-là et ces thématiques-là.
Beaucoup d'augmentation de médias qui sort un petit peu des bords. Je prends pour exemple on parlait d'Harmonie tout à l'heure, où il y a une musique qui avait pu être créée. Je vois que chez Delcourt Soleil, ils ont aussi fait beaucoup d'efforts avec leur application en réalité augmentée. C'est plus juste, tiens, on vous a fait une petite bande-annonce qui va sortir de votre écran.
Tout à fait.
J'ai vu, il y avait Astra Saga de Philippe Ogaki qui était assez fabuleux pour ça, parce qu'il a des batailles spatiales. Et quand on scanne la page, en fait, on a des modélisations des vaisseaux qui se battent, qui apparaissent sur votre écran de smartphone ou de tablette. Et c'est assez fabuleux.
Oui, tout à fait. C'est vraiment aussi touché. Enfin, la BD a toujours été un média en phase avec son temps, je pense, par rapport à ses évolutions en termes de style, en termes de format, etc. Elle était, on va dire, pour beaucoup, elle est un peu figée sur le modèle franco-belge classique, mais elle a évolué dans son histoire, la bande dessinée, Et autour du monde, elle est propre à chaque culture. Chaque culture a sa vision et sa manière de faire de la bande dessinée. Et c'est aussi un peu ça qu'il faut qu'on trouve de plus en plus, c'est qu'on arrive à ouvrir notre marché aussi peut-être à d'autres styles de bande dessinée et à voir que la bande dessinée, elle peut sortir du format papier classique. Et puis, tout simplement, on a de plus en plus d'auteurs qui travaillent sur tablette, qui travaillent en format numérique. Donc, bon, c'est un peu différent pour monter des expositions pour nous, par exemple, pour imprimer des choses qu'on va mettre en place. Mais ça permet aussi des choses énormes en termes informatiques, en termes techniques, pour de la visualisation 3D, pour voilà, de se projeter vraiment, se mettre quelque part. J'avais vu aussi une exposition, hein, je ne sais plus dans quel festival, mais sur vraiment s'immerger dans l'atelier du créateur de la BD, quoi. C'est vraiment sympa. On arrive et on voit son univers, ses sources d'inspiration. Et voilà, on peut imaginer des choses vraiment intéressantes autour d'une exposition de bande dessinée.
On parle beaucoup de métavers récemment. On peut imaginer en fait une expo où on serait assis sur une chaise et juste un casque sur la tête.
C'est ça. Donc après, ça remplacera jamais pour moi l'échange avec l'auteur. Hein. Ça, c'est indispensable. C'est bien, c'est un plaisir de pouvoir le voir illustré en direct, de vouloir discuter avec lui. On a la chance, hein, j'insiste là-dessus, au niveau d'Angibédé, d'avoir un festival qui a un bon volume de visiteurs, qui a un bon rythme, qui est une bonne organisation. Voilà, on est connu pour être quand même un des plus gros festivals du secteur au niveau régional. Mais on a un côté très familial, très convivial, qui fait que les auteurs aiment revenir chez nous. Pour preuve, c'est beaucoup, on n'a pas à les inviter, c'est eux qui nous appellent pour venir, donc ça fait plaisir. Et on a la chance d'avoir beaucoup de moments privilégiés entre auteurs et festivaliers, et ça, c'est un truc auquel on tient. Et c'est aussi sur ça que repose l'identité du festival Angers BD.
Un festival convivial, en fait, qui est chaleureux.
C'est ça, tout à fait, qui est chaleureux, parce qu'on a une proximité avec les auteurs, parce qu'on a une petite équipe de bénévoles, on se connaît tous, on est soudés, on connaît les auteurs. Alors on prend soin d'eux aussi, on les bichonne un petit peu pour qu'ils passent un bon moment. Et si un auteur passe un bon moment, bah, les festivaliers passent aussi un bon moment.
Ça me permet de faire une transition vers une question. Il y a combien de personnes qui gèrent ce festival au total? Ça représente quoi en nombre, en temps de travail et en temps de personnes?
Qui gère réellement le festival? On va dire, on a une équipe d'une quinzaine d'adhérents, on va dire, et permanents, qui font les réunions et qui construisent le festival à l'année. On doit être de mémoire 20, 22 adhérents à l'association. Donc il y en a quelques-uns qui sont adhérents, qui cotisent chez nous, qui ont un droit de vote et de décision, mais qui ne sont pas forcément présents lors des réunions parce qu'ils habitent partout en France. Et on peut compter, et ça c'est vraiment bien, sur une équipe d'une cinquantaine, soixantaine de bénévoles tous les ans au moment du festival. Donc des bénévoles on a beaucoup d'anciens, on a aussi des rotations, hein, entre des personnes qui font venir de nouveaux bénévoles, leurs enfants, leurs cousins, leurs frères et sœurs, etc. Et l'idée, c'est vraiment que sans ces bénévoles aussi, on ne ferait pas vivre le festival. On est tous bénévoles, d'accord, même dans le bureau, même dans l'équipe de gestion du festival. Mais on a vraiment besoin de main d'œuvre aussi le week-end, et ça, c'est vraiment indispensable.
Je vois pas quoi rajouter de plus. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Si vous avez toujours pas envie d'aller au festival, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus pour vous donner envie. Enfin, genre,
faut venir, c'est tout. Faut pas hésiter, faut se présenter, et puis on fera un plaisir de vous faire découvrir l'univers de la bande dessinée.
That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. On a quasiment fini. On vous laissera en compagnie de gens qui vont vous mettre un gros bazar à la fois dans les oreilles et dans la tête. Je sais pas si ces gens-là lisent de la BD. Vous lisez de la BD un petit peu ou pas? Oui, beaucoup.
Gaston Lagarde.
Jarry. Jarry, voilà. Oui, les sales gosses, ouais, c'est ça.
J'ai eu Lupiter.
Bon.
Les sisters.
Ouais,
j'ai des enfants de 9 ans. Forcément, c'est...
Et vous irez au festival ou pas?
Il est où le festival?
4 et 5 décembre.
C'est où?
À Angers BD, au centre de congrès.
Ah bah carrément, en fait, voilà. Carrément.
Tous les ans, depuis 23 ans.
J'ai du monde à emmener, et bah c'est super.
Et ben voilà.
Et ben voilà, il y a un public qui arrive.
Et
ben voilà.
Eh bien écoute Jean, je te remercie d'être venu, d'avoir passé ce moment
toi,
en ma compagnie. Je remercie également Pierre Benoît de m'avoir mis en lumière. C'était pas prévu sous cette forme là, mais bon, c'est pas très très grave. Ça nous a fait plaisir de partager cette double doubleur d'antenne. On se retrouve dans 15 jours pour parler à nouveau bande dessinée dans la case de Seb. On se retrouve demain dans les voies du scénarium où on va partir dans un autre monde. Je vous emmène dans l'espace en compagnie de mes petits camarades. Et puis, bah, on va se quitter là-dessus. Et n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital,
c'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi.
FM.